voyage. Le moment venu, il envoya un esclave chez les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il leur envoya encore un autre esclave. Ils le frappèrent à la tête et le déshonorèrent. Il en envoya un autre qu'ils tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il le leur envoya le dernier en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se dirent « C'est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, il fera disparaître les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture ? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur. C'est une chose étonnante à nos yeux. Ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Pour aborder ce texte, je vous propose les quatre clés d'entrée suivantes. D'abord, quelques généralités. Ensuite, nous parlerons des contextes au pluriel. Puis, nous arrêterons un peu sur la parabole elle-même. Et enfin, nous aurons une synthèse en guise de conclusion. Premièrement, donc, quelques généralités. Et tout d'abord, le rappel rapide, parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises ces derniers temps, le rappel rapide de ce qu'est une parabole. Une parabole est une courte histoire inventée, s'appuyant sur la vie quotidienne des auditeurs et ayant pour but de leur enseigner une vérité spirituelle. Jésus aimait enseigner en parabole, et nous ne sommes donc pas étonnés d'en trouver à peu près une cinquantaine dans les évangiles. Le mécanisme de la parabole ou le principe de la parabole est celui de l'analogie, c'est-à-dire de la comparaison. Une comparaison, dans la plupart des cas, qui est explicite, qui est évidente dans le texte, et parfois implicite, comme c'est le cas dans notre texte. Et ainsi, par le jeu de la comparaison, Jésus va enseigner des vérités profondes, en particulier sur le royaume de Dieu. Dans notre parabole ce matin, c'est la métaphore de la vigne qu'il va utiliser. Rappeler que les paraboles fonctionnent sur le principe de l'analogie m'amène à préciser la différence rapidement, entre une parabole et une allégorie. Dans une parabole, chaque objet, chaque détail reste ce qu'il est. Un objet au service de l'histoire, un détail au service de la vérité enseignée. Dans une allégorie, c'est différent. Dans une allégorie, chaque détail, chaque objet correspond à une vérité ou à une réalité spirituelle. Ce n'est donc bien évidemment pas tout à fait la même chose. Et il nous faut veiller, quand nous cherchons à comprendre les paraboles, à les interpréter, à ne pas tomber dans le travers de l'allégorisation, et donc résister à la tentation de vouloir donner du sens à tous les détails de la parabole. Si nous le faisons, nous allégorisons le texte, ce n'est plus une parabole, mais une allégorie. Et si nous le faisons, alors nous donnons un autre texte, un autre sens au texte, un autre sens en tout cas que celui que l'auteur a voulu pour la parabole. Dans une parabole, les détails sont au service de la vérité enseignée. Une dernière chose pour finir ces quelques généralités. Les paraboles sont généralement construites de telle manière à amener les auditeurs à prendre position. Et c'est ainsi que très souvent, dans les paraboles, nous trouvons des éléments, des détails qui ont pour but d'interpeller, qui ont pour but de susciter une réaction, de surprendre, parfois même d'irriter, de susciter la colère, en tout cas de faire réagir l'auditoire. Ce sont les fameux éléments provoquants dont j'ai parlé à plusieurs reprises et dont le choix classique, c'est le choix du gentil dans la parabole du bon samaritain, du gentil qui n'est autre que le samaritain, alors même que les samaritains étaient les ennemis héréditaires des juifs. Il y a donc là, dans le choix de ce gentil, quelque chose de provoquant, quelque chose qui va susciter indignation et colère et rendre le message de Jésus encore plus percutant. Nous verrons un peu plus tard s'il y a un élément provoquant dans notre parabole et si oui, lequel. Venons-en maintenant au contexte, je disais les contextes au pluriel de notre parabole. Quels sont-ils ? Dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire à la fin du chapitre 11, nous allons trouver le contexte immédiat de notre histoire. Et là, nous allons voir Jésus se faire interpeller par les chefs religieux de l'époque, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les grands prêtres. Ils interpellent Jésus au sujet de son autorité. Nous sommes le troisième jour de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. C'est déjà la troisième fois qu'il va au temple. Et nous sommes, comme vous le savez, dans la dernière semaine avant la crucifixion. Je lis deux versets à la fin du chapitre 11. Il retourne à Jérusalem, donc c'est Jésus et les disciples, comme il marchait dans le temple. Les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent le trouver pour lui demander « De quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné autorité pour le faire ?» Ici donc, les chefs religieux interrogent Jésus sur son autorité. Cette question « De quelle autorité fais-tu cela ?» Cette question des responsables religieux de l'époque fait très certainement référence à l'épisode qui vient juste de se passer où Jésus a chassé les vendeurs du temple. C'est dans le même chapitre 11 de l'évangile de Marc. De quelle autorité, disent les responsables religieux, as-tu mis la pagaille dans le temple, dans la maison de Dieu ? Voilà en termes simples la question qu'il pose à Jésus. Et comme c'est souvent le cas, Jésus ne répond pas directement à la question qui lui est posée et il va lui-même poser une question à ses chefs religieux. C'est la suite du texte. Jésus leur répondit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des humains ? Répondez-moi. » Avec cette question de Jésus, les chefs religieux sont coincés. Ils sont coincés parce que, quelle que soit leur réponse, elle sera à leur désavantage. Et c'est la raison pour laquelle ils décident de ne pas répondre, ou plutôt ils décident de répondre qu'ils ne savent pas la réponse à la question de Jésus, ce qui est un mensonge. Nous lisons les deux versets suivants qui sont les derniers, enfin les trois versets suivants qui sont les derniers versets du chapitre avant notre parabole. Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, alors pourquoi ne l'avez-vous pas cru ? Et si nous répondons des humains, ils avaient peur de la foule, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela. » Fort de leur silence, Jésus décide de ne pas leur répondre, ou du moins de ne pas leur répondre directement. et nous pourrions dire fin du premier round. Mais il y a un deuxième round. Et le deuxième round, c'est notre parabole. Notre parabole qui est en réalité la véritable réponse de Jésus à cette question des chefs religieux. La parabole des vignerons adresse la question de l'autorité de Jésus et y apporte une réponse. De quelle autorité fais-tu cela ? Avaient demandé les chefs religieux à Jésus. Et pour répondre à cette question, Jésus leur raconte la parabole des vignerons. Notre parabole s'adresse donc en premier aux chefs religieux de l'époque. Et c'est important de le comprendre pour bien appréhender ce que dit le texte. C'est important pour le comprendre, et c'est d'ailleurs ce que dit le texte lui-même. Regardez à la fin de la parabole, au verset 12, c'est dit clairement, ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur de la foule, ils avaient compris que c'était pour eux, qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Voilà donc le contexte immédiat de notre parabole. Quelques mots sur le contexte plus large. En d'autres mots, est-ce qu'il y a un arrière-plan biblique, un arrière-plan vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, à notre texte? Et il y a en effet un texte dans le prophète Ésaïe qui est très certainement la base de notre histoire, la base de l'analogie de notre parabole. Il s'agit du texte d'Ésaïe 5, versets 1 à 7. Et ce texte va nous orienter dans la compréhension de cette analogie de la vigne en particulier. Je ne lis que ces 7 versets. « Laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres et y planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puants? Maintenant, laissez-moi, je vous prie, vous faire savoir ce que je ferai à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée. J'ouvrirai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni sarclée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber de pluie sur elle. Or, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il espérait l'équité, et voici le crime, la justice, et voici le cri des victimes. Qu'apprenons-nous de ce texte qui pourrait nous être utile dans la compréhension de notre parabole des vignerons? Nous apprenons que la vigne, en tout cas ici, dans ce texte d'Ésaïe, est une image pour Israël, pour le peuple de Dieu. C'est le verset 7. Or, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Qu'apprenons-nous encore dans ce texte qui pourrait nous être utile? Nous apprenons que le propriétaire de la vigne, ou le vigneron en chef, est une autre image pour Dieu, ou une image pour Dieu. Et puis, qu'apprenons-nous encore dans ce texte qui pourrait éventuellement nous être utile dans la compréhension de notre parabole? Nous apprenons que le vigneron, c'est-à-dire que Dieu, a tout fait pour sa vigne, pour son peuple. Il a choisi un coteau fertile, il en a travaillé la terre, il en a ôté les pierres, il y a planté un cépage de choix, il a bâti une tour au milieu pour la protéger, il y a creusé une fosse ou une cuve pour y presser le bon fruit qui allait y pousser. Tout a été fait par Dieu pour que sa vigne soit dans les conditions optimales pour porter du bon fruit, pour que son peuple porte du bon fruit. Mais alors que Dieu espérait du bon fruit, alors que tout avait été fait pour cela, la vigne du Seigneur a produit des fruits puants, dit le texte. Et nous avons ici le résumé tragique, dans les grandes lignes, de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Dieu s'est choisi un peuple, il l'a libéré de l'esclavage de l'Égypte. Et il lui a donné le pays promis où coulait le lait et le miel. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il porte du bon fruit, pour qu'il serve le Seigneur, pour qu'il soit une lumière parmi les nations et qu'il reste attaché au Seigneur. Et qu'a fait le peuple ? Il a produit du bon fruit, il a été fidèle à Dieu, il a respecté tous les termes de l'alliance. Non, nous le savons, Israël n'a cessé d'être infidèle, de se détourner de Dieu pour se tourner vers les idoles. Il n'a cessé d'abandonner Dieu à maintes et maintes reprises et il n'a cessé de produire des fruits puants aux yeux de Dieu. Verset 4, « Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puants ?» Et qu'a fait Dieu alors ? Qu'a fait le vigneron à sa vigne ? Il lui a annoncé un jugement. Versets 5 et 6, « Maintenant laissez-moi, je vous prie, vous faire savoir ce que je ferai à ma vigne ? J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée. J'ouvrirai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni sarclée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber de pluie sur elle. » Et ce jugement est venu premièrement en 612 avant Jésus-Christ avec l'invasion par les Assyriens du royaume du Nord et avec la déportation massive des habitants du royaume du Nord en Assyrie. Et puis un peu plus d'un siècle plus tard, deuxième réalisation avec la destruction de Jérusalem en 586, invasion du royaume du Sud par les Babyloniens et déportation massive de ceux qui étaient là en Babylone. Le jugement annoncé dans le texte d'Ésaïe et dans beaucoup d'autres textes de l'Ancien Testament a bel et bien eu lieu. Mais après le jugement, après la réalisation de ce jugement, est venu le temps de la restauration, le temps du rétablissement, le temps du retour au pays qui a eu lieu avec Esdras et Néhémie, entre autres. Si le jugement de Dieu dans le texte d'Ésaïe est sévère, et sa réalisation bien évidemment, il ne va cependant pas aussi loin que le jugement qui est énoncé dans notre parabole. Qu'est-il dit dans notre parabole ? Revenons au texte de notre parabole. Que fera donc le maître de la vigne, puisque il a envoyé tous ses serviteurs et qu'il n'y avait rien. Il viendra, il fera disparaître les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Quel est le jugement de notre parabole ? Les vignerons vont disparaître et la vigne va être confiée à d'autres. Qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, l'annonce de ce jugement est l'élément provoquant de notre parabole, l'élément qui va susciter une réaction chez les auditeurs de Jésus et chez les chefs religieux en particulier. Parce que Jésus est ici en train de dire aux responsables religieux de l'époque que leur sort est scellé et que la vigne du Seigneur, dont ils ont la charge, va être confiée à d'autres. Jésus est en train de leur dire qu'Israël va perdre son statut privilégié de peuple de Dieu. La vigne du Seigneur va être donnée à d'autres, pour qu'il y ait enfin du bon fruit. Et c'est encore plus explicite à la fin de la parabole, de la même parabole que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, avec quelques petites variantes, où Jésus dit à la fin, c'est pourquoi je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Les chefs religieux ont-ils compris? Nous l'avons vu au verset 12, oui. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Et cette parabole, cet enseignement, a dû être comme une décharge électrique pour les chefs religieux, qui se croyaient bien à l'abri dans leur statut privilégié, ou bien à l'abri de leur statut privilégié. Et on peut noter ici le même type de réaction par les Juifs d'Antioche, les Juifs d'Antioche de Pisidie, qui vont réagir un peu de la même manière envers Paul et Barnabas, quand ils annoncent qu'ils vont annoncer l'évangile aux non-Juifs. Regardez, je vous l'ai mis parce que c'est intéressant. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Voyant les foules, les Juifs furent remplis d'une passion jalouse. Ils contredisaient Paul avec des calomnies. Paul et Barnabé lui dirent alors avec assurance, il était nécessaire que la parole de Dieu vous soit dite à vous d'abord. Mais puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. Car le Seigneur nous a donné cet ordre, j'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les non-juifs se réjouissaient, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier, mais les Juifs excitèrent les adoratrices de haut rang et les notables de la ville. Ils déclenchèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. D'un point de vue positif, on peut souligner que ce jugement contre Israël, c'est le salut des non-juifs, c'est-à-dire de nous. C'est la possibilité d'un évangile qui dépasse les frontières d'Israël et qui va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'ouverture du salut au monde entier. Les limites du peuple de Dieu allaient être redéfinies. Elles ne seraient plus ces limites. L'Israël national, l'Israël dans la chair, mais l'Israël dans la foi en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont la foi en Christ, dit Paul aux Galates, qui seront désormais les véritables descendants d'Abraham. Et comme il le soulignera dans son épître aux Romains, en utilisant l'image de l'olivier franc pour Israël et de l'olivier sauvage pour les non-juifs, il va souligner que l'olivier franc va être greffé des branches de l'olivier sauvage. Notons bien que ce jugement de Dieu sur Israël ne vient pas comme une erreur de parcours. Ce n'est pas le plan B de Dieu parce que le plan A n'a pas fonctionné. Il était dans l'intention de Dieu dès le commencement qu'il en soit ainsi. Ça aurait pu se passer autrement si Israël avait été fidèle, bien sûr. Mais c'était dans l'intention de Dieu que le salut soit pour tous. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Abraham dès le commencement, Genèse chapitre 12, au début du chapitre, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça n'avait jamais été l'intention de Dieu que ce soit seulement Israël, mais que tous les hommes et les femmes de, enfin, que les hommes et les femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue aient accès au salut en Jésus-Christ. Passons maintenant au troisième point et à la parabole elle-même. Louer sa vigne était une pratique courante. C'est ce que j'ai lu dans plusieurs ouvrages, en tout cas une pratique courante à l'époque de Jésus, ce qui montre que nous sommes dans quelque chose de réaliste, comme c'est toujours le cas dans les histoires des paraboles. Et dans ce cas de figure, après les vendanges, à la vente du vin, on se répartissait les bénéfices selon le contrat établi. Et si le propriétaire ne pouvait pas venir, ne pouvait pas se déplacer, alors il envoyait un serviteur pour encaisser son dû. Et c'est ce qui se passe dans notre parabole. Le propriétaire envoie un premier serviteur qui est maltraité, renvoyé les mains vides, puis il en renvoie un second, puis un troisième, et puis beaucoup d'autres, dit le texte. Et la question qui se pose ici est la suivante, qui sont-ils ? Qui sont ces serviteurs ? Si la vigne, c'est Israël, c'est le peuple de Dieu. Si le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Si les vignerons, ceux qui s'occupent de la vigne, sont les chefs religieux de l'époque, ou les chefs religieux de tout temps, la question qui se pose ici est qui sont les serviteurs de notre histoire ? Et la réponse la plus plausible, dans la cohérence en tout cas, de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est que ces serviteurs sont les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes que Dieu n'a eu de cesse d'envoyer vers son peuple pour parler à son peuple, pour le ramener dans le droit chemin, pour qu'il produise enfin du bon fruit. Des prophètes qui ont été souvent malmenés et parfois persécutés. Il y aurait ici beaucoup de textes à lire dans l'Ancien Testament pour étayer ce que nous sommes en train de dire. J'en ai simplement retenu trois qui sont significatifs. Jérémie 25, le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés à nouveau, inlassablement, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait que chacun de vous revienne, je vous prie, de sa voix mauvaise et de ses agissements mauvais, et vous resterez sur la terre que le Seigneur vous a donnée. Vous resterez si vous revenez. Que le Seigneur vous a donné à vous, à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne me contrariez pas par l'œuvre de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclaration du Seigneur. De sorte que vous m'avez contrarié par l'œuvre de vos mains pour votre malheur. Puis deux autres textes encore qui redisent la même chose avec quelques détails en plus, mais ils se sont rebellés et révoltés contre toi. Ils ont rejeté ta loi derrière leur dos. Ils ont tué tes prophètes qui les avertissaient pour qu'ils reviennent à toi. Ils t'ont outrageusement bafoué. Et à la fin du chapitre 11, dans l'Épître aux Hébreux, nous avons là aussi une explication qui correspond vraisemblablement à ce que les prophètes ont subi. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison, ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée, et menèrent une vie errante, vêtue de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Oui, Israël, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, et en particulier les responsables religieux, ceux à qui la vigne avait été confiée, n'ont pas toujours respecté les termes du contrat, les termes de l'alliance. Ils se sont souvent détournés de Dieu. Ils ont souvent adoré de faux dieux. Ils ont rarement écouté les prophètes que Dieu leur envoyait pour les rappeler à l'ordre, pour leur redire son amour, pour leur rappeler son alliance et l'engagement qu'ils avaient pris envers Dieu, pour les ramener à la raison. Mais ils ont souvent maltraité et persécuté ceux que le propriétaire de la vigne leur envoyait afin qu'ils produisent du bon fruit. Et qu'a fait le propriétaire? Qu'a fait Dieu voyant cela? C'est ce que nous lisons au verset 6 de notre parabole. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il le leur envoya le dernier en disant, ils respecteront mon fils. Qu'a fait le propriétaire? Il a envoyé son fils. Son fils bien-aimé, dit le texte. Et ce fils, bien évidemment, dans la cohérence de tout ce que nous avons dit, ne peut être que Jésus. Et l'expression bien-aimé fait ici, bien évidemment, écho à ce qui a été dit déjà dans l'Évangile. Lors du baptême de Jésus, cette voix du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, ce qui va être dit, ou ce qui a été dit, pardon, au moment de la transfiguration. Dieu a envoyé son fils. Le propriétaire de la vigne a envoyé son propre fils comme ultime recours. Certainement qu'ils allaient revenir dans de meilleures dispositions. Certainement qu'ils allaient le respecter. Certainement qu'ils allaient enfin revenir dans le droit chemin et enfin porter du bon fruit. Mais il n'en a rien été. Et quel a été le raisonnement des vignerons en voyant le fils? Pourquoi ont-ils tué le fils? Était-ce une malheureuse erreur? Ont-ils agi par ignorance? Pensaient-ils que c'était un énième serviteur que Dieu leur envoyait? Le texte est clair. Les vignerons ne se sont pas trompés de cible. Ils savaient que c'était le fils, l'héritier, et que si l'héritier mourait, alors, pensaient-ils, l'héritage leur reviendrait. Leurs agissements sont délibérés, ils ont agi en connaissance de cause et ils ont saisi l'opportunité qui se présentait à eux pour tuer le fils, pour s'en débarrasser et pour régler le problème une fois pour toutes, c'est du moins ce qu'ils pensaient. Et nous comprenons ici qu'un des accents forts de cette parabole est la mise à nu par Jésus des intentions des chefs religieux à son égard. Jésus les démasque. Jésus démasque leur hypocrisie. Il voit leur jeu. Il connaît leur cœur. Il sait quels sont leurs sentiments à son égard. Et il leur dit clairement qu'il sait quelles sont leurs intentions à son sujet. Pas étonnant donc que la parabole se termine avec ce constat que j'ai déjà rappelé à plusieurs reprises. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Revenons maintenant à la question du départ, celle du questionnement de l'autorité de Jésus, celle que les chefs religieux lui ont posée à la fin du chapitre précédent. De quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné autorité pour chasser les vendeurs du temple? Et nous avons dit que la parabole est la réponse que Jésus leur donne. Et que dit-elle à ce sujet? Elle dit aux chefs religieux que le Fils a l'autorité du Père. Elle dit aux chefs religieux que Jésus est le fils du propriétaire de la vigne, c'est-à-dire le fils de Dieu. En d'autres mots, qu'il a toute autorité sur la maison de son père, sur le temple, parce qu'il est le fils. Parce qu'il est le fils de Dieu. Parce qu'il est le fils du propriétaire de la vigne du Seigneur. Il agit avec l'autorité de Dieu, son Père. Voilà la réponse de Jésus à la question des chefs religieux. Et Jésus affirme donc au travers de cette réponse très clairement sa divinité. Il est le Fils du propriétaire. Il est le Fils de Dieu. Et il faut se rappeler ici que dans la pensée juive, le Fils est l'égal du Père. Le Fils est de la même essence que le Père. Et donc, les Juifs comprenaient très bien que Jésus se faisait Dieu. Mais ce n'est pas la seule chose que Jésus affirme ici. S'il affirme sa divinité, il affirme aussi sa mort, son rejet, parce que le Fils va mourir. Le Fils va être mis à mort par les vignerons. Et cette mort ne sera pas un accident. Et par cette parabole, et il y a d'autres textes aussi, mais par cette parabole, nous comprenons que Jésus savait parfaitement ce qu'il attendait. Il est entré à Jérusalem en connaissance de cause. Il sait ce qu'il y a au bout du chemin. Et il sait qu'au bout du chemin, il y a la croix. La croix n'est pas un accident de parcours. Personne n'a pris la vie de Jésus. Jésus ne s'est pas fait avoir. Jésus a donné sa vie. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Avant de terminer par une courte synthèse sur ce que cette parabole nous apprend, j'aimerais encore dire un mot sur la citation que nous avons dans notre parabole du psaume 118, citation qui se trouve au verset 10. N'avez-vous pas lu cette écriture ? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. C'est précisément tiré des versets 22 et 23 du psaume 118, qui, soit dit en passant, et c'est pas anodin, est le même psaume d'où est tiré le Hosanna avec lequel la foule a acclamé Jésus 2-3 jours auparavant quand il est entré à Jérusalem. Hosanna et la pierre rejetée. Quel est le sens de cette métaphore de la pierre rejetée ? Derrière cette image de la pierre rejetée, il y a la réalité d'une pratique que nous n'avons aucune peine à comprendre ici avec tous les clapasses et les pierres sèches. La réalité des bâtisseurs de l'époque qui, pour construire leurs édifices en pierre, choisissaient avec attention les pierres qui semblaient correspondre le mieux à l'ouvrage qu'ils voulaient faire. Ils en gardaient certaines, et ils rejetaient celles qui ne convenaient pas à leurs yeux. Et dans notre texte, Jésus s'identifie clairement à cette pierre qui a été rejetée. Il est celui que les autorités juives de l'époque ont rejeté. Il est un Messie qui ne leur convient pas. Mais il est le Messie que Dieu a néanmoins choisi. Et c'est ce qu'on appelle un revirement total de situation. La pierre qui a été rejetée va devenir la principale, celle de l'angle, c'est-à-dire celle sur laquelle tout l'édifice va s'aligner. Et comme le dit d'ailleurs le verset 11, c'est une chose étonnante que cette pierre rejetée devienne la principale, celle de l'angle. Et cela ne pouvait venir que du Seigneur. Jésus est la pierre de base de la nouvelle communauté que Dieu va construire. C'est lui qui redéfinit les limites du nouveau peuple de Dieu. C'est sur lui que s'alignera le nouvel édifice. C'est la foi en Jésus qui est le critère d'appartenance au nouvel Israël. Je termine avec quelques synthèses et une parole pour nous faire réfléchir. Qu'affirme notre parabole ? Elle affirme plusieurs choses importantes. Elle affirme que Jésus est d'essence divine. Il est le Fils de Dieu. Et en tant que fils du propriétaire de la vigne, Jésus avait toute autorité sur la maison de son Père. Il a agi avec l'autorité de Dieu, son Père, qui est aussi la sienne en tant que fils. Qu'affirme notre parabole ? Elle affirme aussi l'attitude bienveillante du Père, du propriétaire de la vigne, envers son peuple. Une bienveillance pleine de patience. Et c'est ainsi que Dieu n'a eu de cesse d'espérer que son peuple revienne à lui. C'est ainsi que Dieu n'a eu de cesse de tendre la main à son peuple. C'est ainsi qu'il n'a eu de cesse de leur envoyer les prophètes. Et c'est ainsi qu'il leur a envoyé son propre Fils. C'est donc un Dieu compatissant, lent à la colère qui nous est décrit dans cette parabole. Un Dieu qui aime ceux qui le rejettent. Un Dieu qui les aime en connaissance de cause, en connaissant leur méchanceté et en sachant qu'ils mettront à mort son propre Fils. Cette parabole affirme que le Fils est la dernière tentative du Père. Plus personne n'a été envoyé après lui. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire puisque le Fils fera tout ce qu'il faut. Lui sera fidèle. Lui portera du bon fruit. Et c'est ce qu'il nous offre par la foi, alors que nous étions incapables de le faire nous-mêmes. Jésus est la dernière révélation de Dieu. Et puis cette parabole affirme qu'après le temps de la grâce, vient inéluctablement le temps du jugement. Cette parabole affirme que le temps de la grâce est toujours un temps limité. Après la grâce vient le jugement. Et dans le texte parallèle de Matthieu, auquel j'ai déjà fait allusion, à la fin de la parabole, après avoir dit que le règne de Dieu leur sera enlevé et donné à une nation qui en produira les fruits, que dit Jésus ? Ah. Non, il ne dit pas rien. Ah non, en réalité, je n'avais pas prévu de diapo pour celle-là, c'est pour ça. Que dit-il ? Il dit, quiconque tombera sur cette pierre, la pierre qui a été rejetée, s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Après le temps de la grâce, vient le temps du jugement. Et puis cette parabole affirme enfin que la vigne a été donnée à d'autres. Israël a perdu son statut privilégié de peuple de Dieu. Le nouveau peuple de Dieu se redéfinit maintenant par la pierre angulaire sur laquelle il s'aligne. Cette pierre qui a été rejetée, mais que Dieu a agréée. Cette pierre qui n'est autre que Jésus. Et c'est maintenant la foi en Jésus qui marque l'appartenance au peuple de Dieu. J'aimerais donc terminer en nous invitant à réfléchir à la question des fruits, et plus particulièrement à celle des fruits dans notre propre vie, celle des bons fruits que Dieu a légitimement le droit de trouver parmi son peuple, parmi ses enfants. Quels fruits caractérisent ma vie, votre vie ? Est-ce que ce sont de bons fruits ? Ou est-ce que ce sont des fruits puants, pour reprendre l'expression très forte du prophète Ésaïe ? S'il y a des bons fruits, que le Seigneur en soit remercié, parce que toute bonne chose vient de lui. S'il y a des bons fruits, alors persévérons. Persévérons parce que c'est là la vocation de toute vigne que de porter du bon fruit. C'est là la vocation de la vigne du Seigneur. Persévérance. Mais il est possible qu'il n'y ait pas que du bon fruit dans notre vie. Il est possible aussi que certains fruits soient mauvais. Alors que faire? La solution est de se repentir devant Dieu. La solution est simplement d'accepter la main tendue que Dieu nous offre, parce qu'aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce, c'est encore le temps du salut, c'est encore le temps du pardon, c'est encore le temps de la repentance, c'est encore le temps de porter du bon fruit à la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants encore de silence.